Stereo Calango, Stereo Calango, di più di dice. Stereo, Stereo, Stereo Calango, Calango, di più di dice.
Il est 18h à Niamey, 18h dans ce site. Dans ce studio et partout au Niger. Bienvenue, messieurs, dames, en direct au studio Kalango, au micro Diallo Mariama Kenda. Tout de suite, le journal en français. Au sommaire, les acteurs de la société civile Michael Zodi, Ibrahim Diori et Karim Tonko sont libres et lavés de tout soupçon après 6 mois passés en prison. Le verdict est tombé ce matin au tribunal de Niamey. On en parle dans un instant. Célébration aujourd'hui, 5 octobre, de la journée mondiale de l'enseignant placée sous le thème « Pour un enseignement de qualité, donc des enseignants mieux formés ». Le studio Kalangou s'est intéressé à la répartition des enseignants du primaire sur l'ensemble du Niger. Vous entendrez Achana Hima, le directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement primaire, à ce sujet. Le montant de la contravention pour défaut de casque et de la ceinture de sécurité, ainsi que la loi portant code de la route adoptée en 2014 au Niger et son décret d'application signé en 2017, feront l'objet du magazine en fin de ce journal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a félicité aujourd'hui, vendredi, le médecin angolais Denis Mukwege, nouveau prix Nobel de la paix, surnommé l'homme qui répare les femmes pour ses nombreuses années passées à soigner les femmes violées victimes de guerre dans l'est de la RDC. Âgé de 63 ans, marié et père de 5 enfants, le docteur Denise aurait pu rester en France après ses études. Il a fait le choix de retourner dans son pays et d'y rester aux heures les plus sombres où il découvre alors les souffrances de femmes qui, faute de soins appropriés, sont régulièrement victime de graves lésions génitales. À Antonio Guterres de souligner, il a non seulement réparé des corps brisés, mais a également redonné dignité et espoir, nous apprend une dépêche de l'AFP. Aucune charge n'est retenue contre Michael Zodi, Ibrahim Diori et Karim Tonko. Ils sont donc libres, lavés de tout soupçon après 6 mois passés en prison. C'est le verdict prononcé ce matin au tribunal de Niamey lors du procès lundi. Le ministre public avait requis 8 mois de prison ferme et 50 000 francs d'amende pour participation à une manifestation interdite et destruction de biens publics. Pour l'avocat de ces infortunés, cette remise en liberté atteste de l'indépendance des juges. Maître Ahmed Maman au micro de Habibou Garba.
L'organisation d'une manifestation interdite sur la voie publique dans les conditions fixées par la loi n'a pas été retenue. La complicité de dégradation des biens publics et privés n'a pas également été retenue, ce qui a fait que le tribunal les a renvoyés de fin des poursuites. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils seront libres. Aucune de ces infractions n'est retenue. Donc, c'est vraiment une satisfaction pour nous parce que ça sécurise les citoyens. Ça confirme l'indépendance des juges, pas de la justice. C'est très important, je trouve, parce qu'ils seront libres. Quand même, plus de 6 mois de détention gratuitement comme ça, sans infraction. Donc, je trouve que c'est un préjudice énorme et pour eux et pour leurs amis, mais également pour leur famille. Donc, quitte à eux maintenant de voir, parce qu'il y a des voies de recours et il y a des voies qui sont prévues par la loi pour se retourner contre la partie poursuivante, notamment l'État du Niger.
Le monde entier célèbre aujourd'hui, 5 octobre, la journée de l'enseignant placée sous le thème « Pour un enseignement de qualité, donc des enseignants mieux formés ». À l'occasion, le studio Kalangou s'est intéressé à la répartition des enseignants de base sur l'ensemble du Niger. Ils sont 78 000, un nombre suffisant mais mal réparti, nous apprend le directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement primaire, Achana Hima.
Au niveau du primaire, nous totalisons environ 78 000 enseignants, dont 56 000 enseignants contractuels qui sont répartis sur l'ensemble donc du territoire national.
Et la répartition, tu veux dire dans les localités, dans les villages, comment elle se présente?
C'est les instructions qui reçoivent les enseignants pour pouvoir les affecter au niveau des écoles. C'est elle-même régie par un décret 2457 qui fixe les normes techniques et environnementales en termes de ratio, donc nombre d'enseignants dans une classe, que ce soit du primaire donc ou du préscolaire. Il y a un minimum qui est requis. Par exemple, le minimum c'est 25 élèves pour comparer donc des classes. Normalement, 45 50 élèves pour faire une classe. Lorsqu'on fait les répartitions d'enseignants, il est arrivé effectivement qu'on constate qu'il y a une pénurie donc ici qu'il faut compléter. Mais de manière globale, nous n'avons pas de manque d'enseignants. Mais dans la répartition spatiale géographique, c'est là où les questions se posent. Les villages, les zones n'ont pas la même concentration de la population. Donc il est arrivé aussi qu'on ferme des classes par manque d'élèves.
L'Agence française de développement AFD a fêté hier à Niamey ses 60 ans de présence au Niger. Cette agence, qui s'appelait la Caisse centrale de la France libre, apporte son soutien au développement du Niger en finançant des secteurs économiques et sociaux. Les interventions de l'AFD de ces 10 dernières années au Niger, rappelées par son directeur Jean-Christophe Morin, au micro de notre reporter Asmana China.
L'AFD a engagé, en termes de montant d'engagement financier, 600 millions d'euros au bénéfice du Niger, dont l'an dernier, 2017, 120 millions d'euros. Les engagements les plus importants ces dernières années soutiennent trois domaines en priorité, mes objectifs 3E, eau, énergie, éducation. Sans eau, pas d'agriculture ni de sécurité alimentaire. L'eau, c'est la vie. Sans éducation, pas de paix ni d'avenir pour la jeunesse. La jeunesse, c'est la seule richesse qui compte. Sans énergie, pas de développement économique et social. L'énergie, c'est l'avenir durable. Alors bien évidemment, outre ces trois priorités en termes de montant de financier et conformément au cadre stratégique de coopération établi en 2017 entre la France et le Niger, l'AFD est également fortement engagée aux côtés du Niger pour contribuer à assurer sa sécurité alimentaire, améliorer la santé de sa population, renforcer sa gouvernance démocratique et dynamiser son secteur privé.
Par le passé, l'enseignant était bienvenu et considéré dans la société. Il était même un modèle. De nos jours, il est perçu différemment à ce sujet, suivant l'avis de l'enseignant Amadou Jibo au micro de Asmana China.
L'enseignant, auparavant, dans ce pays, avait une certaine valeur. Dans les villages, les enseignants, ils sont respectés, ils sont écoutés. L'enseignant est souvent consulté par le chef de village, par tout le monde. Il est payé régulièrement. Il n'a pas besoin d'aller auprès d'un paysan pour chercher de l'argent et rejoindre les deux bouts. Bref, l'enseignant, des années antérieures, il était dans une certaine aisance. C'était un modèle de la société. Même les élèves, quand vous posez la question à un élève, il dit « je voudrais être enseignant ». Tout le monde aimait l'enseignant parce que on voit en l'enseignant quelqu'un qui a réussi. Mais paradoxalement, ces années qui suivent, l'enseignant est devenu en quelque sorte celui qui est méprisé dans la société. On ne peut pas continuer à respecter l'enseignant quand il est obligé dans le village d'aller devant le tablier qui se trouve devant sa porte pour chercher un prêt de 1000 francs pour pouvoir joindre les deux. L'autre aspect, c'est que les enseignants actuellement ne sont pas très bien formés.
La loi d'orientation du système éducatif au Niger, Lausanne, conçue en 1998, vise à encadrer et bien gérer le système éducatif nigérien. Le souci étant de définir les objectifs et les moyens nécessaires à obtenir une vue d'ensemble du système éducatif. Voici quelques explications avec Chebou Dambaji, un des artisans de la conception de la Lausanne. Il est au micro de Gungouma Mandantani.
La Lausanne, vous avez les principes généraux, vous avez les acteurs et les différentes missions. La Lausanne dit que l'État nigérien assure l'éducation et vous avez la gestion du système. Quelle est la part de l'État, quelle est la part de la communauté et puis des différents partenaires. Donc vous trouvez, la Lausanne a défini quelles sont les charges de ces différentes composantes. Toujours est-il qu'il revient à l'État de prendre en charge l'essentiel des charges du système éducatif. La même loi a prévu que les parents puissent être mis à contribution pour prendre en charge l'éducation. Et vous avez aussi les collectivités. Vous avez ce qu'on appelle les COGES, les CDSS. La Lausanne a énoncé le principe de mettre à contribution les parents pour la prise en charge de l'école. Mais c'est une loi. Elle n'a pas dit comment ça doit se faire.
Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés au rôle du comité de COGES des écoles, une structure composée de parents d'élèves et du responsable de l'établissement. Après évaluation des besoins de l'établissement, le bureau des parents d'élèves élabore un plan d'action pour dégager une somme qui sera mise à la disposition du COGES. Pour plus de précisions, notre reporter Soumana Amadou a interrogé Léon Erinadou, membre du comité de gestion de l'école de la Mordée 1 de Niamey.
S'il manque des craies, s'il manque de quelques outils, des réparations de robinets, des réparations de tableaux, ardoisines, les balais, les seaux et autres, on fait des plans d'action. Et le bureau l'adopte avec les parents d'élèves. Et c'est à partir de ces plans d'action qu'on a un fonds qu'on donne à gérer au COGES. Et selon les plans d'action maintenant, chaque élève cotise. Aucun directeur d'école, aucune enseignante n'a le droit de prendre 5 francs d'un enfant sans l'avis de l'APE. C'est les COGES qui gèrent. Mais au niveau de COGES, le directeur d'école est d'office. Le SG. Et les COGES n'ont de l'argent que par des partenaires et les écoles. En tout cas, moi, à mon école, on n'a jamais demandé à un directeur ou un autre de prendre de l'argent pour inscrire les élèves.
Léon Zenabou, membre du COGES. 74 migrants ouest-africains, dont une femme et deux enfants, ont été secourus lundi par une équipe de sauvetage de l'OIM dans le désert à Assamaka, une localité nigérienne frontalière de l'Algérie, a rapporté l'Organisation internationale pour la migration sur sa page Facebook. Ces migrants sont ressortissants du Nigeria, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Gambie, du Niger, des deux Guinées et du Libéria. Ces migrants sont arrivés à pied, a indiqué l'OIM, après les premiers soins, ils ont été acheminés et hébergés dans un centre de l'OIM d'Arlit. Séance de salubrité d'une place publique et un match de football ont regroupé mardi à Terra civils et militaires pour renforcer la collaboration et lutter efficacement contre l'insécurité et la sauvegarde de la cohésion sociale dans ce département. C'est à l'initiative du PNUD à travers son projet pour la paix dans le Liptako gourmand. Plus de précisions avec Garba Amsatou Haruna du ministère nigérien de l'Intérieur au micro de Bukhari Kanda.
Vous savez bien qu'avant, il y a une méfiance entre les civils et les porteurs de tenue. Nous, notre objectif, c'est de faire renaître la confiance entre ces deux groupes. Cela facilitera la transmission des informations et des renseignements par les civils aux militaires afin que ces derniers puissent agir promptement en temps opportun contre les terroristes. C'est cette idée qui a motivé ce match entre militaires et civils, match qui s'est soldé par un nul, deux buts partout. Même aujourd'hui, nous avons balayé un terrain en collaboration avec les porteurs de tenue. L'opération de salubrité s'est déroulée le matin et le match a eu lieu le soir. Et tout cela est l'œuvre des militaires et des civils.
La partie magazine de ce journal, le montant de la contravention pour défaut de casque et de la ceinture de sécurité, ainsi que la loi portant code de la route adoptée en 2014 au Niger et son décret d'application signé en 2017 font l'objet du magazine. Abdoulaye Ali Moumini, chargé des affaires juridiques à la principale mairie de Niamey, nous donne plus de précisions. Plusieurs questions sur l'arrêté du président de la délégation spéciale de Niamey sur le port du casque, la ceinture de sécurité ainsi que le montant de l'amende soulèvent des inquiétudes parmi les citoyens. Abdoulaye Ali Moumouni, chargé des affaires juridiques du président de la délégation spéciale, explique.
Le décret d'application en matière de contravention a fixé des taux en fonction des catégories des véhicules et des infractions. Vous avez aisément remarqué qu'au niveau du port du casque de protection, il a été dit que la contravention est de 5000 francs par passager. Cela veut dire, si vous, le conducteur, vous portez votre casque et que le passager ne porte pas de casque, vous allez débourser 5000 francs. Si les deux ne portent pas de casque de protection, cela fait 10 000 francs.
Qui paye les 10 000 francs?
La moto est sous la responsabilité du conducteur.
Alors, on en vient au véhicule.
En fonction du véhicule, quelle est l'amende à porter? Si c'est 10 000, si c'est 15 000, 20 000, 25 000, jusqu'à 50 000.
Quand vous parlez de type de véhicule, prenons un exemple alors.
On ne peut pas amender de la même manière le conducteur d'un taxi et son passager qui a peiné pour trouver 200 francs rentrés dans un taxi et vous qui roulez dans un véhicule V8. On suppose que vous avez un certain niveau social, on ne peut pas loger à la même catégorie tous les véhicules.
Le port de la ceinture concerne qui?
En agglomération, ce sont les occupants avant du véhicule qui doivent impérativement porter la ceinture de sécurité. Maintenant, si vous êtes taximan, vous prenez un client et que vous laissez les clients ne pas porter la ceinture de sécurité, cela veut dire que vous êtes disposé à payer la contravention.
Est-ce qu'il y a eu des sensibilisations? Est-ce que les citoyens ont été imprégnés de cette loi?
Il y a une maxime qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Dès lors que l'Assemblée nationale vote une loi, dès lors que le Conseil des ministres a adopté un décret d'application, on suppose que tous les citoyens sont informés. Mais en dépit de cela, nous, en tant que collectivité locale, nous nous sommes dit il nous appartient de faire une sensibilisation de proximité pour permettre aux citoyens de la ville de Niamey et ceux qui sont de passage à la ville de Niamey de comprendre qu'il y a une nouvelle mesure qui est là en République du Niger et que les autorités de la ville de Niamey ont décidé de faire en sorte qu'elle soit effective.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci, au revoir.